Bonjour à toutes et à tous, et un grand merci pour votre invitation de passer ces moments avec vous. On a parlé beaucoup des montagnes déjà ce matin, et ça tombe très bien, parce que peu de temps après notre arrivée en France, il y a déjà 36 ans, j'ai une expérience à vous raconter. On était en France depuis 2 ans à peu près, dans la région parisienne, et on nous a demandé, moi et mon épouse, de nous joindre à une équipe de sortie de ski dans les Alpes. Alors, venant de la Floride, ça serait une bonne aventure pour moi, parce que, bien entendu, là d'où je viens, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de montagne. Donc, ça serait l'aventure de découvrir les Alpes. Et donc, on est parti comme jeune couple marié avec ces jeunes pour passer une journée assez mouvementée dans un autocar qui est parti de bonne heure des banlieues sud de Paris, destination des Alpes à une station de ski. Nous sommes enfin arrivés à notre destination et bien sûr, tout le monde voulait tout de suite passer à prendre des skis pour ceux qui devaient louer du matériel. Et le problème, c'est qu'il ne faisait pas très beau, même il y avait beaucoup de brouillard, il neigeait, c'était la fin de la journée, mais bon, quand même, on a pu avoir des skis pour tout le monde, et les jeunes, comme d'habitude, voulaient dire, mais quand même, il faut faire un peu de ski aujourd'hui, permettez-nous, s'il vous plaît, on veut faire une montée, une descente, et tout ce qu'on vous demande, parce qu'on est là quand même. Bon, les moniteurs, on a consulté ensemble, on a dit, bon, d'accord, faisons quand même, on va faire ça, donc on est monté à la station. Alors, il faut me mettre, vous comprenez ma situation. En France, depuis peu de temps, j'ai essayé de comprendre tout cela parce que j'avais appris les choses de base de la langue française. Mais vous pouvez imaginer, dans un autocar avec des jeunes toute une journée, j'avais appris un autre vocabulaire que je n'avais jamais entendu avant. Et j'ai essayé de suivre de mon mieux. Alors, celui qui gérait l'équipe, il était à la sortie de l'autocar, il a dit, bon, voilà ce qu'on va faire. On se divise en 2 groupes. Si vous n'avez jamais fait du ski, vous vous mettez à ma droite. Si vous avez fait du ski, vous vous mettez à ma gauche et vous allez faire, voilà. Donc, j'ai essayé d'assimiler tout cela. Et c'était comme des ordinateurs de l'époque, au début des ordinateurs, où il y a l'information qui entre et ça commence à tourner. Et je fais du ski. Oui, effectivement. À Aberville, il y a un an, à l'école de langue, on a fait une sortie à la Plagne où j'ai appris à faire des choses de base et j'ai fait la conquête de la piste verte. Donc, oui, j'ai fait du ski. Hein. Je suis dans cette catégorie-là. Mon épouse, avec beaucoup plus de sagesse, elle a mis avec le groupe de ceux qui n'avaient pas fait de ski. Et je me trouvais avec quelques jeunes qui allaient faire une montée et une descente. Mais en allant vers la piste, j'ai dit à mon mieux, aux jeunes autour de moi, mais vous savez, j'ai fait du ski, mais pas beaucoup. Oh, Paul, ne t'inquiète pas, on va monter une fois ensemble, on va descendre une fois ensemble, tout ira bien. Oui, Paul, on va monter une fois, d'accord, très bien, on fait comme ça. Alors, on a fait, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était la fin de la journée, c'était même le dernier monté, et là, il y avait devant nous un télécabine. Alors, je n'ai pas beaucoup d'expérience, je n'avais aucune expérience sur les pistes comme ça, mais je ne pouvais qu'imaginer où allait ce télécabine. Le problème, c'est que avec le brouillard, après 100 mètres, on ne voyait plus rien, ça a disparu dans les nuages comme ça. Et j'ai dit, mais je n'ai pas vraiment fait beau de ski. Paul, ne t'inquiète pas, on va monter une fois ensemble, on va descendre une fois, et on était dans le télécabine. Donc le télécabine est monté, on était même dans le brouillard et tout, et on est monté je ne sais pas où, et je ne pouvais que calculer s'il nous faut tant de temps de monter cette montagne, combien de temps faut-il pour redescendre, et de toute manière, c'était la dernière montée de ce télécabine, la nuit tombée, on ne voyait rien, brouillard, neige, le tout. Bon, enfin, le télécabine s'arrête au bout. Tout le monde est descendu, tout le monde mettait leurs skis. Moi, je faisais de mon mieux de les faire aussi, mais je n'ai pas beaucoup d'habitude. Et on a commencé notre descente. Et au moins, j'avais appris avec la position chasse-neige. Là, on peut aller doucement et avec des grands virages, on est tranquille pour descendre. Le problème, c'est que les autres étaient déjà partis. Ils m'ont attendu au premier virage, un peu comme ça. Quand enfin je suis arrivé, ils ont dit, mais quand même, il faut descendre plus vite que ça. Il n'y a personne derrière nous et la nuit tombe quand même et à cette vitesse-là, quand même. Là, non, quand même, Paul, il faut faire un effort. Rendez-vous à la fin de la piste et ils sont partis. Bon, d'accord, effectivement, ils avaient raison. À ma vitesse, là, je serai là à un bon moment. Donc, mais, d'accord, j'ai observé, il faut mettre les skis en parallèle, ça va beaucoup plus vite, n'est-ce pas? Et on y va. Et j'ai vraiment fait un ski remarquable jusqu'au premier virage. Parce que là, avec les skis en parallèle, je suis allé tout droit dans une montagne de neige. Un ski est parti, une douleur assez intense au genou, et j'étais implanté carrément dans cette montagne de neige. Alors là, il n'y avait plus de bruit. Tout le monde était parti. Télécabine, stationnaire, arrêtée pour la nuit, il n'y avait personne. Alors là, je n'avais qu'un ski. J'avais du mal avec deux et il m'en restait un. J'ai mal au genou et je suis le dernier sur la montagne. Moi, j'avais peur. Hein? Qu'est-ce que j'allais faire? Dans la Bible, il y a un psaume que j'aime d'une manière particulière. C'est le psaume 121 qui dit ceci. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» C'est une bonne question, ça. Je lève les yeux vers les montagnes. Je sais que le psalmiste n'était pas dans ma situation quand il a écrit ce psaume. Là, on est d'accord. Hein? C'était les montagnes de Jérusalem, et bon, d'accord. Mais quand même, c'était ma question. D'où me viendra le secours ? Il n'y avait personne. Avant d'aller plus loin, des fois la vie c'est comme ça. On est dans une situation désespérée. On regarde autour et on dit, mais alors là, comment vais-je en sortir? Vous avez peut-être une situation comme ça maintenant, ou peut-être vous craignez une situation comme ça. Dans la situation économique actuellement en France, il y a beaucoup de gens qui regardent un peu, mais comment allons-nous en sortir? Aurai-je assez d'argent à la retraite? Est-ce que j'aurai toujours une santé suffisamment bonne? Ou qu'est-ce que je vais faire avec des analyses qui viennent d'arriver avec ma consultation au médecin la semaine prochaine? Qu'est-ce que je vais faire avec la situation familiale dans laquelle j'habite? Où est la sortie pour mes enfants dont et je peux continuer beaucoup de possibilités? Des situations où on est comme si on était confronté autour par les montagnes dans une situation désespérée et on n'a aucune idée comment en sortir. C'est de ça que je veux parler ce matin. Que faire quand on pose sincèrement cette question? Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Quand on est dans une situation désespérée, quel est notre secours? Alors, si vous avez votre Bible, la réponse est donnée tout de suite après. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Y a-t-il des questions? Qu'est-ce qu'on va donner comme? Est-ce que c'est une bonne réponse d'abord? Bah, mais oui. Sur le plan théologique, 20 sur 20. Bravo. C'est ça la réponse. Mais est-ce que cette réponse vous suffit? Quand vous êtes carrément dans une situation désespérée, la situation financière est catastrophique, la situation familiale, ce n'est pas évident. Les enfants, les beaux-parents, le travail, chômage, la liste est longue. Et quand on vous dit, ne t'inquiète pas, le Seigneur est bon. Merci. Mais qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? Comment puis-je en sortir? Alors, heureusement que le psaume ne s'arrête pas à cette phrase. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est de regarder ce psaume 121 pour essayer de voir comment nous pouvons vraiment trouver en Dieu notre secours quand on se trouve dans des situations désespérées, quand on se trouve dans des situations pénibles, quand on pose la question, mais Dieu, je sais que tu es là, je crois en toi, mais comment puis-je en sortir? Et je pense que ce psaume nous donne trois bonnes raisons pour mettre notre secours en Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quelle phrase extraordinaire! Il commence pour dire que, oui, mais celui qui est notre secours, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Il est capable de faire tout ça. Nous, qui habitons dans les Alpes, nous n'avons aucune excuse pour comprendre la force du Seigneur qui a créé tout cela. Et Dieu qui est capable de créer et de gérer l'univers, c'est celui-là qui va nous aider à sortir de notre situation. Est-ce que d'après vous, il a la capacité de le faire? Si lui, il peut créer les cieux et la terre? Mais la réponse, bien sûr que oui. Quand on trouve quelqu'un qui a la capacité ou qui a la compétence, comme cela nous aide. Dans les années 80, après nos études de langue française, première implantation d'église dans les banlieues sud de Paris, dans la ville de Vigne-sur-Seine. On a trouvé un petit local qu'on pouvait acheter et rénover pour faire nos réunions, d'avoir notre salle de culte. C'était dans un état pitoyable, donc il fallait faire beaucoup de travaux à l'intérieur. Et je me souviens que, bon, tout allait bien, une bonne équipe, mais il fallait quand même réorganiser pas mal de choses. Il fallait installer des câbles, il fallait refaire l'électricité. Il y avait beaucoup de travaux assez difficiles à faire à l'intérieur, au point où deux murs importants qui seraient notre salle de culte, une fois tous les câbles mis à l'intérieur et la porte installée et les autres choses, mais ces deux murs étaient dans un état vraiment catastrophique même. Et il n'y avait pas 36 solutions, il fallait plâtrer les murs. Pas de problème, n'est-ce pas? On va plâtrer les murs. On n'avait jamais fait ça, mais ça ne doit pas être si difficile que ça. Même celui qui était notre chef de chantier n'avait pas encore fait ça, mais alors ça c'était avant YouTube et les autres moyens par Internet de voir comment ça se fait. Donc nous sommes allés à un magasin de bricolage, on a acheté un sac de plâtre, on a suivi les indications, vous mettez tant d'eau, tant de poudre, vous mélangez, voilà, et voilà. Donc on savait comment le faire. Alors voilà la situation, c'est qu'on avait deux grands murs, sac de plâtre, de l'eau, des outils, tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Et on a tout mélangé, préparé le mur, on a jeté le plâtre comme il est indiqué, tout est tombé par terre, on a ramassé le plâtre pour rejeter par-dessus le mur, tout est tombé de nouveau par terre, on a essayé de notre mieux de garder tout cela. Si vous avez jamais travaillé avec le plâtre, vous savez qu'il y a un peu de temps, et vraiment peu de temps, où ce plâtre reste utile. Sinon, ça devient quelque chose d'inutilisable. Et moi, je me trouvais avec la tâche de ramasser tout ce qui n'était plus dans un état utilisable et de faire une montagne de tout cela dans le jardin derrière parce que peu restait sur le mur. Après des heures d'efforts, le mur était même pire qu'au début de notre effort. On était découragés. On allait faire l'ouverture des portes au grand public dans les quelques jours. Et on a regardé ces deux murs et on a dit, alors là, et on a laissé la salle comme ça. Le lendemain, j'ai reçu un coup de fil. C'était un homme qui s'est présenté de la même union d'église qui habitait loin, loin, loin de Vigneux et à au moins une heure de route s'il n'y avait pas beaucoup de circulation. Et à Paris, ce n'est presque jamais le cas. Mais bon, il s'est présenté, il a dit, voilà, bonjour, je suis de l'église de, il m'a donné le nom de l'église, et j'ai appris que vous faites des rénovations, et je me demandais, j'ai quelques jours libres, si jamais vous avez besoin d'aide. J'ai dit, ah, mais frère, c'est très gentil de votre part, mais vous êtes tellement loin, tu es tellement loin, on a assez de gens, mais c'était quand même gentil de proposer ton aide. Il a dit, ah, d'accord, mais... Si jamais, je suis plâtrier, si jamais vous avez besoin. Vous êtes quoi? Alors, vous venez demain? Si vous... Non, alors là, ça change tout. Si, est-ce que tu es disponible? Oh, là, non, s'il te plaît, si tu peux venir demain. Ah, tu as des choses à plâtrer? Ah, oui, oui, oui. On peut le dire comme ça. Donc, il est venu le lendemain. Alors là, il faut imaginer la situation. Nous sommes cinq qui avaient fait nos efforts. Et notre cher frère plâtrier, il arrive dans la salle et il a tout de suite regardé. Oula! Ah, d'accord. Donc, eux, il était très gentil. Il n'a pas dit, qui a fait ça? Il savait déjà. Hein. Donc, il a dit, bon, d'accord. Très bien. Et nous, les cinq, on a observé, on va voir ce que c'est, hein. Lui, il a pris le même sac de plâtre, la même source d'eau, mêmes outils, et bien sûr, les mêmes murs, et avec beaucoup d'aide, il mélangeait, il jetait, et ça restait à l'endroit précis. Il faisait des gestes comme ça, et on était émerveillés. En 2 heures, des murs lisse, magnifique. Et lui, il n'était pas même fatigué après. On a applaudi, on a dit, mais c'est magnifique, comment est-ce que tu as pu faire ça? Il a dit, mais c'est mon métier. Effectivement, c'était son métier. Il était spécialiste de ça. Pour lui, ce n'était pas même un effort. C'était chose naturelle. Ah, quand on a la compétence, ça change tout. Alors, dans ce psaume, le psalmiste dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu est le spécialiste de tout ça. Dieu sait tout, il sait le faire. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Nos problèmes pour lui, c'est, ce n'est pas même un petit effort. Il sait le faire. Qui est le plus compétent de nous faire sortir de nos difficultés, de nous donner les solutions dont nous avons tant besoin? Mais c'est celui qui a fait les cieux et la terre qui est capable. Et donc le psalmiste nous invite à mettre notre confiance en Dieu. Quand on regarde vers les montagnes et on pose cette question, comment en sortir? Où est la sortie? Il a dit, ah mais confiez-vous en l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre, il a toute la compétence nécessaire. Oui, mais la compétence, ça c'est bien. On peut dire, voilà ma situation, on me propose le secours de l'Éternel qui, bon, est-ce qu'il est capable? Oui, admettons-le, il a fait les cieux et la terre. Mais est-ce qu'il va s'occuper vraiment de mon problème, de ma situation? Alors le psalmiste qui continue. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Oui, la compétence est essentielle, mais la compétence sans la disponibilité est inutile. Je me souviens, quelques années plus tard, j'avais, avec nos 5 enfants, on avait besoin d'un deuxième véhicule et avec notre budget assez restreint, ce deuxième véhicule, c'était une Ford Fiesta qui avait déjà vécu une bonne vie, mais qui servait assez bien pour mes déplacements. Mais récemment, j'avais des ennuis avec cette Fiesta parce que elle démarrait bien le matin, mais une fois le moteur chaud, et si j'arrivais à un arrêt complet, impossible de redémarrer le moteur. Il fallait pousser, il fallait faire quelque chose pour redémarrer le moteur, mais impossible de démarrer le moteur chaud. Heureusement, j'avais un ami, collègue, qui connaissait bien les voitures, qui a Il pensait savoir d'où venait la panne, mais il a dit, le problème, c'est qu'il faut venir jusqu'à chez moi, à peut-être 3 quarts d'heure de route de chez moi. Et j'avais déjà appris avec ce véhicule que si je voulais arriver à une destination, alors c'est les banlieues sud de Paris. Hein. C'est un peu comme l'environnement ici, les feux partout, beaucoup de circulation. On ne peut pas tout simplement prendre une route dans la campagne et rouler tranquillement. Donc il fallait que j'arrive jusqu'à chez lui. Mais le défi, c'est que il fallait que je ne m'arrête pas d'un seul coup comme ça, parce que si une fois arrêté à une situation où je ne pouvais pas pousser la voiture, mais alors là, j'y serais là un bon moment. Donc j'avais appris à calculer les feux, les stops et tout, pour rouler, toujours avoir un peu d'élan pour déclencher l'embrayage, pour continuer. J'étais assez spécialiste à ça, parce que c'était la seule façon de rouler avec ce véhicule. Et j'étais peut-être à mi-chemin vers mon ami, où je voyais, et là, il y avait des travaux. Donc, il n'y avait plus de rez-de-chaussée, plus de bandes de sécurité. Il y avait 2 voies assez larges pour les 2 voitures, mais c'est tout. Et je voyais le feu, et j'ai dit, ah, il faut que je calcule cela, parce que là, aucune possibilité de pousser le véhicule. J'arrivais, j'avais une voiture devant moi, le feu vert, pas de problème, feu jaune. Et la voiture devant moi s'est arrêtée brusquement. Alors, bien sûr, je me suis arrêté aussi. Moteur arrêté. Bon. Mais là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Beaucoup de voitures derrière moi, feu rouge, aucune place pour pousser la voiture et je ne peux pas démarrer le moteur. C'est impossible. J'ai essayé quand même. Alors, bien entendu, nos amis à Paris sont très patients dans des situations comme ça. Et ils nous ont indiqué leur soutien par leur klaxon et d'autres gestes pour me montrer qu'ils comprenaient bien ma situation parce que je gênais tout le monde. Et je ne pouvais pas... Il n'y avait aucune place pour mettre mon véhicule et beaucoup de circulation. Mais quelle chance! Parce que à 50 mètres en face, il y avait une voie qui menait vers un grand bâtiment avec Citroën écrit. C'était une usine fabrication Citroën. Ah, mais au moins, d'accord. Donc j'ai fait de mon mieux de dégager la voiture, mais je ne pouvais. Personne n'était disponible pour m'aider à pousser la voiture, mais non, ils étaient pressés pour aller. Donc, je suis allé, j'ai trouvé l'entrée, le service accueil pour Citroën. Il y avait 5 hommes en bleu qui buvaient du café, pause café, évidemment, qui parlaient entre eux. J'ai demandé, excusez-moi, messieurs. Oui, vous désirez. J'ai dit, oui, vous voyez le bouchon en face de chez vous. C'est à cause de mon véhicule, parce que je n'arrive pas à démarrer le moteur. Est-ce que vous pouvez m'aider au moins à déplacer la voiture dans votre voie? Non, on travaille. Oui, je vois, oui, vous êtes très occupé, mais est-ce que pendant votre travail, est-ce que vous pouvez m'aider à pousser la voiture au moins pour dégager parce que ça provoque des... mais non, excusez-nous, on ne peut pas vous aider parce que nous sommes au travail. Oh, un a dit, et c'est quelle marque de véhicule? J'ai dit, c'est une Ford. Ah! Oui, bon, d'accord. Oui, excusez-moi, je n'ai pas pensé à acheter une Citroën au moment parce que personne ne voulait m'aider. Alors, je vous pose la question. Je suis à une usine de fabrication de véhicules. Est-ce qu'il y avait assez de compétences dans ce bâtiment pour m'aider à même pousser ma voiture? Oh, mais il y avait au-delà. Il pouvait refaire ma voiture dans ce garage. Il y avait des mécaniciens, des spécialistes qui pouvaient, au-delà de mon besoin, la compétence était là, mais pas la disponibilité. Et des fois, avec Dieu, on dit, oui, il est capable de m'aider, mais est-ce qu'il est disponible? Et est-ce qu'il s'occupera de moi? Est-ce que je peux m'adresser à lui avec mon problème, lui qui s'occupe de tout l'univers? C'est pour cela qu'il nous a dit, Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Autrement dit, avec notre Dieu, il n'y a jamais de fermeture annuelle, grève, suite aux encombrements, nous ne pouvons pas faire suite à votre appel, répondeur automatique, panne, grève, toutes les choses comme ça. Non, avec Dieu, il est toujours disponible, toujours. On peut toujours faire appel à lui. Il n'y a pas de fermeture avec notre Dieu. Il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et il nous invite à venir à lui avec nos situations. Celui, le spécialiste, il est toujours, toujours disponible. Donc nous avons un secours largement compétent, même au-delà de nos besoins, qui est toujours disponible. Et il continue pour dire ceci. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Autrement dit, Dieu est un Dieu compétent, un secours constant, mais aussi un secours complet. Il répond à tout besoin. Et il utilise beaucoup d'expressions pour dire, mais qu'importe la situation, que ce soit le soleil, la lune, la nuit, le jour, ton arrivée, ton départ, toutes les situations imaginables, Dieu s'en occupe. Il n'y a pas de clause suspensive dans le contrat, des choses que, ah oui, mais pas ça. Nous avons tous des contrats d'assurance. Nous avons tous eu des situations où on présente notre réclamation. Ah, monsieur Davis, ce n'est pas couvert dans votre contrat. Il fallait souscrire à quelque chose de... Ah, ben maintenant, on me le lit. Ou c'est page numéro 15, paragraphe B, écrit d'une façon incompréhensible pour dire que vous avez toute la couverture sauf... Et ça tombe dans cette catégorie-là. Des franchises, des exclusions, les limitations, etc. Mais le psalmiste nous dit avec Dieu, non, ce n'est pas comme ça. C'est tout risque, tout est couvert, Dieu s'occupe de tout et a toujours. Parce qu'il est un secours compétent, un secours constant et un secours complet. Et c'est ça le rappel de ce psaume. Donc je vous pose la question, mais quelles sont les montagnes dans votre vie? Des situations extrêmement difficiles, pénibles. Des fois ce sont des petites montagnes, mais c'est quand même difficile. Des fois c'est gigantesque et on est carrément dépassé. Mais ça fait partie de notre vie chrétienne. Quand on est dans des situations où on pose sincèrement la question... D'où me viendra le secours? Puis je vous proposais ce matin ce rappel que notre Dieu est votre secours. C'est lui qui a fait les cieux et la terre, donc il est largement compétent. C'est lui qui est toujours disponible. Il ne sommeille pas, il ne dort pas, il ne prend pas de vacances. Il est toujours disponible. Et il nous a rassurés qu'il s'occupe de tout. Vous qui habitez en France, et peut-être c'est à la télévision suisse, je ne sais pas, il y a une publicité pour les assurances, pour le MAF, où il y a, on veut, et c'est un peu comique et tout, où on veut montrer que tout est couvert, vous serez rassurés pour tout, mais il y a un homme qui ne croit pas. Il arrive toujours pour dire, il vient avec sa réclamation et on sait qu'en tête il va dire, ah, ils vont me dire que, ah non, désolé pour vous, cette fois-ci on ne peut pas vous aider. Il vient pour piquer comme ça et il dit, voilà ma situation. Et bien sûr le directeur dit, pas de problème, on avait déjà réfléchi à ça, vous êtes couvert. Et alors, chose étonnante avec cette pub, on penserait que l'homme qui provoque ferait que « Ah, merci, ah mais merci beaucoup, ah mais ça c'est quelle bonne nouvelle !» Mais non, sa réponse est toujours « Je l'aurai un jour, je l'aurai !» Autrement dit « Un jour je vais voir le truc qui n'est pas couvert parce que c'est trop beau hein !» Et on est amusé par cela. Mais quand je regarde cette pub, je regarde un peu dans le miroir. Parce que trop souvent dans ma vie chrétienne, c'est un peu comme « on verra, on verra ». Ouais, Dieu dit que « oui, mais bon, hein, on verra ça ». Et ben non, avec Dieu, ce n'est jamais comme ça. Il nous aime trop pour nous laisser. Il nous donne toujours la solution selon sa volonté. Et sa volonté est parfaite. Donc, quelles sont les montagnes dans notre vie? Sommes-nous dans une situation où, carrément, on ne voit pas le moyen d'en sortir? Ou est-ce que nous craignons des situations que, hey, mais si cela arrive, ou si cela, et ça, et ça, et ça, qu'est-ce que je vais faire? Dieu est notre secours compétent, constant et complet. Vous voulez peut-être savoir comment je suis sorti de cette situation à la montagne. Mais quand John m'invite la prochaine fois, non. Alors, désespéré sur cette montagne, j'avais très peur. Hein. En plus, j'avais mal aux genoux et je n'avais aucune idée comment descendre. J'avais vraiment très peur. Après, je ne sais pas combien de temps, c'était long, mais peut-être quelques secondes ou minutes après, là, je n'en sais rien. Mais je pouvais distinguer dans le brouillard quelqu'un, un skieur qui venait de loin. Alors bien sûr, j'ai crié, j'ai hurlé, sans doute en anglais, peut-être en français, je n'en sais rien. Mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour que cet être humain comprenne que je suis là. Alors là, j'ai appris après que c'était le pisteur qui faisait la dernière descente que pour vérifier que les pistes sont dégagées et tout pour le lendemain. Et il m'a entendu, bien entendu. Il avait quelque chose derrière lui et comme il skiait bien, à côté de moi. Il a vu ma situation. Alors là, je voyais qu'il tirait une luge. Donc, il a commencé à analyser la situation. Il a dit, bon, écoutez, monsieur, voilà ce qu'on va faire. Premièrement, je vais vous demander de vous mettre sur la luge. J'avais déjà pris la luge entre les deux bras. Hein. Il n'allait pas partir sans moi. Donc, ça, il a dit ça par mémoire, j'en suis sûr, parce que là, impossible de partir, monsieur, sans moi sur cette luge. Ça, c'est évident. Donc, il a dit, voilà ce que je vous demande. Je vous demande, je vois que vous êtes déjà sur la luge. C'est bien. Bon. Deuxièmement, je vous demande tout simplement de faire confiance. Vous ne faites rien pour m'empêcher dans la descente. Non, je ne fais plus rien. Là, pas de problème. Donc, il a récupéré l'autre ski en passant et quelle descente! On a doublé mes chers amis qui m'avaient oublié au sommet de la montagne. J'ai fait comme ça. Voilà. Et nous sommes arrivés jusqu'à la station. Alors, il m'a gentiment laissé sortir. Il a dit, mais écoutez, monsieur, vous êtes à la station depuis combien de temps? Ben, on vient d'arriver et on voulait faire une montée et une descente. Ah, oui, d'accord. Et puis, je vous conseiller de monter plus tôt dans la journée et prendre plus de temps pour votre descente. Oui, j'ai compris. Très bien. Merci. Et il m'a laissé. Trois instructions que ce pisteur m'a données. Il faut me faire confiance, il faut m'obéir et il ne faut rien faire pour empêcher mon aide. Bon conseil sur les pistes. Très bon conseil pour la vie chrétienne. Quand Dieu veut être notre secours, il nous demande tout simplement, suivez-moi, obéissez-moi, faites confiance à moi et ne ne faites rien pour mon péché. Laisse-moi agir dans ta vie. C'est ce qu'il dit. C'est ça le message du psaume 121. Donc, quand vous profitez de nouveau des pistes avec votre Bible de la montagne en main, vous pouvez penser au psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ah, le secours me vient de Dieu. Celui qui est compétent, qui offre un secours constant et complet. Merci Seigneur.